Beau réveil si vous nous rejoignez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est la fin d'un secret de Polichinelle. Paris 2024 verra le jour, les Jeux Olympiques dans la capitale française d'ici 7 ans. Après les applaudissements des porte-paroles, la prudence des élus locaux, ils ne savent pas encore quels bénéfices en tirer, vous l'entendrez.
Et dans ce journal également, la Russie qui montre ses muscles à l'Union Européenne, ses grandes manœuvres militaires débutent aujourd'hui à la frontière avec la Pologne.
Nous essaierons aussi de comprendre pourquoi Aung San Suu Kyi est silencieuse sur les exactions commises contre les Rohingyas dans son pays en Birmanie. Hier soir, l'ONU a réclamé la fin des violences.
Et puis ces suppressions de postes qui embarrassent Emmanuel Macron, Nokia envisage de licencier 600 personnes en France, réunion prévue à Bercy ce matin.
Après ce journal, le billet politique de Frédéric Seyss et cette question, Jeux Olympiques, baisse du chômage, reprise de Whirlpool, François Hollande réhabilité, on en parle dans un quart d'heure. Et d'abord donc, 1924-2024, un siècle plus tard, Paris accueillera de nouveau les Jeux Olympiques d'été. Confirmation officielle hier soir au Pérou, à Lima, où malgré le peu de suspense, la délégation française a exulté. Écoutez cet échange entre le coprésident du comité de candidature, Tony Estanguet, et David Douillet, ancien ministre et judoka. Tony Estanguet d'abord.
C'est juste incroyable, c'est magique, j'ai jamais vécu ça, je crois. J'ai gagné 3 fois les Jeux, mais là, c'est...
C'est une quatrième.
Non, c'est même pas une quatrième, c'est au-delà, quoi. Ça fait 100 ans qu'on attend ce moment-là. Thank you so much, les gars.
David, comment vous sentez ?
Léger. Pour un poids lourd, c'est sympa. Non, c'est formidable. Au vu des échecs qu'on avait subis avant, on avait ça au fond de nous, quoi. On n'osait pas y croire. Et quand on a vu toutes ces mains, enfin, la libération arrive. Enfin.
La quatrième tentative était donc la bonne. Il faut dire qu'il n'y avait plus d'adversaire. Los Angeles adjugeant les JO de 2028. C'est une formidable reconnaissance pour la France, s'est immédiatement félicité Emmanuel Macron depuis les Antilles françaises. Un immense bonheur pour Anne Hidalgo, maire de Paris, qui précise par ailleurs qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour financer d'éventuels surcoûts. Car la course se poursuit maintenant, il faut construire, investir intelligemment. Budget estimé à près de 7 milliards d'euros pour d'éventuelles retombées entre 5 et 10 milliards. Dans le Huffington Post ce matin, François Hollande prévient, il ne faut pas confondre investissement et démesure. Justement à ce propos, Stéphane Peu est député communiste de Seine-Saint-Denis, là où se trouveront de nombreuses infrastructures. Il interpelle déjà le gouvernement pour que les habitants profitent des retombées économiques.
Quelles sont les mesures que le gouvernement entend prendre, qui soient des mesures contraignantes pour que les investissements, environ 3 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, qui vont être consentis pour les Jeux Olympiques, se traduisent par des retombées économiques directes pour le département et la population de la Seine-Saint-Denis, notamment des infrastructures bien pensées et leur pérennité et donc leur reconversion après les Jeux soient véritablement pensées avant. Il faut que... Par exemple, le centre aquatique bénéficie aux écoliers de la Seine-Saint-Denis, qui est le département qui a le plus faible taux de jeunes qui quittent l'école primaire en sachant nager. Donc il faut au moins que ça leur profite. Il ne faut pas que ce soit le jackpot pour les multinationales avec les travailleurs détachés, mais il faut que les TPE, les PME de la Seine-Saint-Denis puissent être directement attributaires d'un certain nombre de marchés et qu'on y mette les moyens, parce qu'aujourd'hui, vous allez à Londres, vous avez des infrastructures pour les Jeux qui sont aujourd'hui des ruines. Je ne vous parle pas de Rio ou je ne vous parle pas du poids que les Jeux Olympiques d'Athènes pèsent aujourd'hui dans la situation de la Grèce en matière de dette et de mauvaise reconversion.
Le député communiste Stéphane Peu, interrogé par Sophie Delpont. Pierre Gattaz, président du MEDEF, invité des matins de France Culture. Au vu de ce que vous avez pu lire, entendre sur l'organisation de ces Jeux Olympiques, est-ce que les richesses seront équitablement réparties ? Comment fait-on pour que les entreprises locales y trouvent leur place et surtout leur compte ?
Oui, je crois que c'est très important cette question. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce magnifique projet, formidable pour la France et pour l'Île-de-France, pour Paris, puisse bénéficier en effet au tissu économique local. Je pense beaucoup aux petites entreprises TPE-PME locales.
Donc, et comment faut-elle pour se positionner très rapidement ?
Écoutez, il faut organiser tout ça. Je pense qu'il faut faire en sorte que ça fonctionne de telle façon à ce que ce soit un tremplin pour ces entreprises de grandir, tremplin pour l'innovation, tremplin pour l'exportation, tremplin pour la formation de ces apprentis, de ces jeunes qui n'ont pas de boulot et qu'il faut absolument former. Donc je dirais qu'il ne faut surtout pas voir ça comme une opportunité ponctuelle, mais surtout, je dirais, un développement durable, peut-être à 10 ou 15 ans. Profiter, et il faut l'organiser, parce qu'aujourd'hui, on vient juste d'avoir la nouvelle, il faut organiser le fait que le tissu local puisse profiter, alors sans distordre la concurrence, bien évidemment, mais pour créer un maximum d'emplois locaux.
Et le MEDEF y participera auprès de ces entreprises ?
Mais bien sûr, nous nous sommes partie prenante et nous ferons tout pour que les retombées économiques soient réelles et surtout en termes de formation et d'emploi derrière.
Pierre Gattaz, vous restez avec nous jusqu'à 8h45. Deux Europes se font face et se montrent les muscles en ce moment, sorte de préparation à la guerre par simulation. Depuis lundi, les Américains et une quinzaine de leurs alliés mènent des exercices militaires en Ukraine. À partir d'aujourd'hui, ce seront les grandes manœuvres de l'armée russe et de la Biélorussie. Exercice stratégique, là aussi, appelé Zapad. Le scénario 2017 est le suivant, l'invasion de ses plus proches voisins. Les Occidentaux évoquent 100 000 soldats à la frontière avec la Pologne et la Lituanie, mais le Kremlin et veut officiellement temporiser. Claude Brouillot.
C'est déjà la troisième fois depuis 2009 que l'armée russe mène ses manœuvres annuelles à l'ouest de son territoire. L'état-major russe déclare officiellement moins de 13 000 hommes engagés, tout simplement parce qu'au-delà de cet effectif, la présence d'observateurs occidentaux obligatoires serait bien plus importante et contraignante que les 4 ou 5 représentants annoncés, essentiellement issus des pays de l'OTAN. Ceux-là d'ailleurs n'auront pas l'autorisation de survoler les théâtres d'opération et pas davantage accès aux briefings fermés des états-majors russes et biélorusses. Maintenir l'incertitude, voire susciter l'inquiétude, correspond donc aux objectifs du Kremlin, qui répond ainsi aux manœuvres occidentales débutées lundi en Ukraine. Vladimir Poutine a pris conscience que les dés sont jetés depuis longtemps avec la Pologne et les Pays-Baltes, membres de l'OTAN. En revanche, pour tout le reste de ses voisins, Ukraine, Moldavie et Géorgie en tête, la Russie rappelle à travers ses exercices de grande ampleur que rien n'est encore fait. Autre objectif enfin de ses déploiements militaires terrestres, mais aussi aériens et maritimes, confirmer aux Occidentaux la force opérationnelle retrouvée d'une armée russe reconditionnée après l'annexion éclair de la Crimée et surtout l'endurance affichée en Syrie.
Claude Brouillot, correspondant de France Culture à Moscou. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle la Birmanie à suspendre les opérations contre les Rohingyas, cette minorité musulmane persécutée dans le pays. Des violences excessives dénoncées par l'ONU, elles poussent les Rohingyas à fuir la Birmanie. Ils sont près de 380 000 à avoir déjà rejoint le Bangladesh. Aung San Suu Kyi est quasiment muette jusque-là. Elle doit s'adresser à la Birmanie la semaine prochaine. Ancienne dissidente, prix Nobel de la paix, devenue conseillère spéciale de l'État, elle n'a jamais eu de position claire sur le sujet. Pas étonnant pour le journaliste Jean-Claude Bureur, ancien correspondant du Monde en Asie du Sud-Est. Il rappelle que tout se joue aux origines même de l'État birman moderne.
Son père, 6 mois avant l'indépendance, avait été assassiné par des gens qui, justement, ne voulaient pas qu'on arrive à un accord avec les minorités, qui est un problème récurrent depuis l'indépendance, auquel se heurte aujourd'hui Aung San Suu Kyi, qui voudrait, m'a-t-il dit, le résoudre. Ça se fera par l'établissement d'un état de droit, un système fédéral, mais il y a de fortes résistances du côté des militaires qui tiennent le couteau par le manche. Aung San Suu Kyi m'a toujours dit que le problème des minorités était fondamental, qu'il fallait trouver un accord comme le voulait son père. Et son père a fait les frais de l'accord qu'il avait signé avec les minorités pour essayer de trouver une cohabitation entre les Birmans qui forment les 2/3 de la population et les minorités qui constituent quand même un autre tiers. Je pense qu'elle est consciente qu'il faudra trouver un modus vivendi pour faire cohabiter tous ces peuples qui constituent l'Union birmane, mais il y a les réticences, pour ne pas dire plus, des militaires qui lui mettent les bâtons dans les roues et elle n'a pas les moyens de faire ce qu'elle souhaiterait.
Le journaliste Jean-Claude Bureur, interrogé par Éric Biegala pour France Culture. Le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui et demain en Turquie, Jean-Yves Le Drian, va plaider la cause du journaliste français Lou Bureau auprès des autorités turques. Le reporter est détenu, je vous le rappelle, dans le pays depuis 1 mois et demi. La justice turque le soupçonne d'appartenir à une organisation terroriste. Lou Bureau était en train de faire un reportage auprès de combattants kurdes qui appartiennent à un mouvement considéré comme terroriste par Ankara. Les séparatistes catalans passent à l'acte. Ils lancent aujourd'hui leur campagne pour le référendum inédit du 1er octobre. Une consultation sur l'autodétermination de la communauté. Référendum interdit. Un défi donc lancé au pouvoir central espagnol qui menace déjà 700 maires de poursuites judiciaires s'ils venaient à prêter des bâtiments pour ce référendum. Les Catalans ont prévu un meeting ce soir dans les anciennes arènes de Tarragone avant une nouvelle manifestation à Barcelone samedi. Imposer la technologie du véhicule électrique est une folie. Voilà une charge cinglante contre les prises de position des gouvernements européens. D'autant plus cinglante qu'elle est signée Carlos Tavares, président du groupe automobile PSA, en marge du salon de l'automobile à Francfort. Carlos Tavares s'interroge en réalité sur le coût écologique du recyclage des batteries et sur leur empreinte carbone. Il dénonce un emballement mondial. Preuve en est, la Chine, premier marché automobile mondial, dit réfléchir à interdire les voitures à essence sur son marché. Elle pense de son côté à d'autres sortes de carburants, l'éthanol par exemple. Explication de Dominique André.
C'est bon pour l'environnement, c'est l'alternative idéale aux carburants fossiles, a déclaré hier l'administration chinoise. En Chine, où 28 millions de voitures ont été vendues en 2016, le défi qui se profile est immense. Actuellement, le bioéthanol, un mélange d'essence traditionnelle et d'éthanol fabriqué à partir de betteraves, de canne à sucre ou de maïs, couvre un cinquième de la consommation d'essence chinoise. Avec un indice de pollution qui frôle les 200 aujourd'hui, soit une qualité de l'air mauvaise, l'objectif est de montrer que le gouvernement agit. L'agence de planification économique ne cache pas non plus que ce nouveau plan vise aussi à se débarrasser des surplus de maïs évalués à plus de 200 millions de tonnes. À long terme, l'administration chinoise entend produire d'autres biocarburants dits de deuxième génération, issus de bois et de résidus forestiers. Une usine modèle est annoncée comme opérationnelle dès 2020. Elle produirait 50 000 tonnes d'éthanol. Dès l'annonce du gouvernement, les titres des firmes chinoises spécialisées dans les biocarburants ont grimpé. Confrontée à une pollution endémique qui menace la stabilité du pays, la Chine réfléchit à interdire la production et la vente de voitures à carburant fossile. De profonds changements s'annoncent dans l'environnement de l'industrie automobile en Chine, a reconnu Xin Guobin, le vice-ministre de l'Industrie.
Dominique André. Trois jours après son passage, la tempête Irma continue de tuer en Floride. Découverte macabre dans une maison de retraite de Miami. Huit personnes âgées sont mortes, sans doute de déshydratation. Le dernier bilan fait état de 80 morts, dont près de la moitié aux États-Unis. Emmanuel Macron, lui, a quitté cette nuit Saint-Barthélemy avec une promesse. Le mécanisme d'aide aux sinistrés sera mis en place d'ici lundi prochain. Il concernera tous ceux qui ont perdu leur logement ou qui sont au chômage technique depuis l'ouragan.
8h12 sur France Culture, c'est la suite du journal de Clara Le Coq-Réal dans les matins de France Culture. La direction de Nokia France sera reçue à Bercy ce matin.
Oui, avec les représentants syndicaux du groupe, le géant finlandais des équipements télécoms pourrait supprimer près de 600 postes d'ici 2 ans en France. Une décision justifiée par la maison mère qui espère dégager 1,2 milliard d'euros d'économies. Mais selon le ministère de l'économie, Nokia ne joue pas clairement le jeu. Lucas Valdener.
Si l'annonce se confirme, c'est inacceptable et l'État ne restera pas inactif. Voilà ce que déclare Benjamin Griveaux. Pour le secrétaire d'État, Nokia doit s'expliquer au plus vite sur ce projet. Un projet qui, selon Bercy, contrevient clairement aux engagements du groupe. C'était il y a 2 ans, presque jour pour jour. En septembre 2015, Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Il reçoit le PDG de Nokia et il donne son accord pour un rapprochement avec Alcatel-Lucent. En échange, le patron du groupe finlandais s'engage à maintenir l'emploi sur 2 ans et promet de recruter 500 nouveaux chercheurs sur le territoire français. Mais voilà, selon la CFDT, les effectifs n'ont pas été maintenus et les embauches prennent du retard, à peine 130 recrutements à ce jour. Pour le syndicat, on est encore très loin du compte. Et maintenant, Nokia pourrait bien supprimer près de 600 postes. Le site de Villarceau à Nozay dans l'Essonne et celui de Lannion dans les Côtes-d'Armor seraient concernés. À Bercy, ça ne passe pas. L'entreprise n'a pas tenu parole, déplore Benjamin Griveaux. C'est pourquoi le secrétaire d'État organise une réunion aujourd'hui. L'objectif étant de faire un état des lieux avec les partenaires sociaux, les élus des sites concernés et la direction de Nokia France avant la fin de semaine. Le plan de restructuration définitive doit être présenté lundi prochain aux salariés.
Lucas Valdener, impossible. Possible conflit social donc se profile encore en France. Pierre Gattaz, vous êtes toujours avec nous ce matin. Après les dossiers GM&S, Whirlpool, déminés difficilement par le gouvernement, jusqu'où peut-il aller pour sauver ses emplois ?
Écoutez, il faut continuer de se battre pour tenter de s'adapter en permanence. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on est dans un monde technologique, numérique qui bouscule tout. Donc, en effet, il y a des emplois, malheureusement, qui vont disparaître, mais il faut surtout recréer des emplois.
Dans une entreprise qui fait des bénéfices et qui parle d'économies à faire grâce à ces emplois.
Alors, Nokia, je connais pas le dossier. Je peux vous dire, par contre, s'il y avait eu des engagements écrits de création de postes ou de maintien de postes, il faut qu'ils respectent leurs engagements. Ça, c'est clair. Par contre, en effet, en comprenant que tout ça bouge, que nous sommes dans un monde des télécoms, le monde des télécoms, je connais bien, en tant que radial, fournisseur de ce marché, c'est un monde en effervescence. urgence. Il faut absolument, en effet, avoir définir une vision, et je crois que une vision de ce qu'on doit faire dans le futur collectivement, à 5 ans, 10 ans, il y a plein d'opportunités dans les télécoms, et en effet, si ces personnes doivent partir de chez Nokia, il faut impérativement qu'on les aide à rebondir dans d'autres activités. Je suis très content, par exemple, que Whirlpool ait trouvé, je dirais, un acquéreur en la personne, je crois, de Nicolas Camailleux, qui est un patron formidable du nord de la France, qui fait des boîtes aux lettres et qui fait des boîtes aux lettres intelligentes. Donc, vous voyez, on est capable de rebondir en intégrant des puces du numérique, du digital. Il fait des performances extraordinaires avec des boîtes aux lettres. Et donc, pour développer son entreprise, il va garder un certain nombre d'emplois chez Whirlpool. Donc je pense que rien n'est foutu. Il faut laisser la possibilité aux gens de s'adapter, ça c'est fondamental. Par contre, il faut s'occuper en effet de l'accompagnement des salariés qui ont perdu leur travail par de la formation permanente.
Pierre Gattaz, vous restez avec nous dans les matins de France Culture. Sur le front social, toujours un point sur l'agenda chargé de ce mois de septembre. Oui. On savait déjà que la CGT appelle à manifester jeudi prochain le 21, suivi deux jours plus tard par la France Insoumise. Eh bien, les routiers prendront la relève le 25, puis les retraités le 28 septembre. Eux manifestaient pour conserver leur art, l'art du conte, à travers le Clio, le Conservatoire Contemporain de Littérature Orale. Il devrait fermer à la fin de l'année. Fin annoncée donc de cette institution basée à Vendôme qui répertorie et qui promeut les histoires orales. Conteurs et conteuses se sont retrouvés hier sous les fenêtres du ministère de la Culture. Ils protestent contre la suppression des 39 000 euros d'aide habituellement allouée au Clio. Explication et reportage de Cécile Kervazoué.
En 2 ans, l'aide de l'État au Clio a été divisée par 3. Aujourd'hui, il n'y a donc plus que 2 équivalents temps plein et le centre de documentation de 4000 ouvrages, les formations, les actions culturelles locales, dont le festival Epos, les créations fonctionnent grâce à des bénévoles. Isabelle Jeanlis, par exemple, est conteuse et bénévole au collège de direction du Clio.
Si le Clio disparaît, c'est tout un pan de l'histoire du conte et tout le renouveau de ce patrimoine et la continuité de ce patrimoine qui disparaît. Alors les conteurs pourront continuer à raconter, mais ils auront un lieu en moins pour les fédérer, un lieu en moins pour retrouver les ressources dont ils ont besoin, un lieu en moins pour accompagner et soutenir leur création. C'est une maison qui a un patrimoine inestimable.
Mes enfants, vous avez brisé.
Et c'est pour montrer que l'art du conte n'est pas mort que la manifestation s'est articulée autour de 40 conteurs venus de toute la France raconter des histoires sous la pluie et dans le bruit de Paris. Catherine Petit est venue d'Amiens.
Dans un monde dans lequel on est tout le temps sollicité par l'image, nous, conteurs, on permet aux gens de se créer leurs propres images, d'avoir cette liberté-là. Et je pense que ce contact humain très simple que peut avoir un conteur avec son public, c'est ça qui fait notre richesse et ce qui finalement est peut-être indispensable à tout être humain. C'est cette simplicité d'échange et de rêve.
Une lettre a été adressée à la nouvelle ministre de la Culture. Une pétition réunissant 2500 signatures tourne pour tenter de sauver le Clio. La DRAC devrait, elle, rendre sa décision le 18 septembre prochain.
Cécile de Kervazdoué pour France Culture. Le ciel de ce jeudi qui débute à présent, en 3 mots, frais, humide et venteux. Des pluies sur une grande partie du pays. Jusqu'à midi d'ailleurs, 8 départements restent en vigilance pluie et inondation. Seul le littoral méditerranéen est épargné. La vigilance concerne des départements du nord-est. Les températures ce matin, 11 petits degrés à Clermont, 15 à Périgueux, 25 à Lodève. Et cet après-midi, 13 seulement à Aurillac, 17 degrés à La Roche-sur-Yon et 25 à Bastia.